Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Sini.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL, 18h40. On va donc défaire le monde maintenant avec vous, Cyprien Sini et toute la bande. Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. L'info autrement. 20 minutes plus inattendues jusqu'à 19h. Le menu, Cyprien.
Et ce soir, on défait une promesse de campagne. Nationaliser les autoroutes pour renflouer les caisses de l'État et le portefeuille des automobilistes. Vous découvrirez que c'est pas si simple. Au menu également, un président pas très commode et un vaccin au bar tabac. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici votre son du jour.
Il est évidemment difficile de contenter tout le monde, mais de toutes les façons, l'autoroute est la solution de l'avenir.
Eh oui, dans la grande foire aux promesses électorales qui ont déjà démarré, la nationalisation des autoroutes. Marine Le Pen, Arnaud Montebourg ont décidé d'en faire une mesure phare, surtout que sur le papier, les avantages ont l'air assez séduisants. Marine Le Pen annonce une baisse du prix des péages, Arnaud Montebourg explique que ça va rien coûter à l'État, et tous deux disent que ça devrait même rapporter plus d'un milliard par an dans les caisses publiques.
Alors avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu confronter ce monde merveilleux de promesses à la réalité. On s'est demandé si récupérer l'exploitation des autoroutes, c'était si simple que ça, et si ça pouvait vraiment être une aubaine pour les automobilistes et les caisses de l'État.
On a donc contacté Laurent Ekay, il est expert en mobilité. Et alors, si effectivement c'est possible pour l'État de récupérer l'exploitation des autoroutes du jour au lendemain, eh ben c'est pas gratuit, voilà pourquoi.
Il faut préciser que le réseau autoroutier, il appartient de toute façon à l'État. Voilà. Et l'État a concédé la construction et l'exploitation de ce réseau à des sociétés concessionnaires. Aujourd'hui, ces sociétés n'ont pas envie de vendre leur part et leur contrat. Donc, ce qui veut dire que si jamais un politique décidait de reprendre la main sur ces contrats, il doit les casser. Donc, il va falloir indemniser. Et c'est pour ça qu'économiquement, ça coûte un certain prix. Certains parlent de 40 milliards, d'autres de 50 milliards. Il est sûr que ça va coûter de l'argent pour indemniser ceux qui vont perdre les contrats.
Oui, car ces contrats de concession, ils courent encore pour plusieurs années, hein, jusqu'à 2030, voire 2035 même pour certains.
Et il n'est pas exclu qu'ils soient prolongés après ces dates-là, à la demande des concessionnaires qui, d'ici là, devront sûrement faire de nouveaux investissements.
Donc, nationaliser, c'est compliqué. Imaginons, monde fictif, on nationalise les autoroutes, elles sont gérées par l'État. Il n'y a plus de péage.
Ah, c'est beau de rêver, Julien. Non, malheureusement, c'est pas si simple.
Si l'État récupérait la gestion, il deviendrait effectivement responsable de cette politique tarifaire. Donc, il pourrait fixer les tarifs qu'il veut. Mais d'un autre côté, il va falloir quand même rémunérer à la fois les investissements et rémunérer ceux qui vont exploiter, gérer, percevoir le péage pour maintenir ces infrastructures routières qui sont nécessaires dans notre pays. Ces sociétés seront rémunérées pour le travail qu'elles vont faire. Vous savez, on a deux façons de construire des routes, soit par l'impôt, soit par l'utilisateur payeur, c'est le péage. Donc, penser que parce que l'État récupérerait beaucoup plus rapidement, en tout cas, son réseau autoroutier et les péages seraient gratuits, c'est pas la peine d'y songer. Moi, je n'y crois pas un seul instant.
Donc, gratuit, non. Moins cher, peut-être,
hein. Peut-être, effectivement. Mais là, du coup, ce sont les dividendes promis pour renflouer les caisses de l'État qui vont fondre.
Et je crois que la volonté des candidats à l'élection présidentielle est de se dire qu'en cassant ces contrats et en récupérant plus vite la maîtrise des infrastructures autoroutières, ils récupéreront cette manne financière. Simplement, je dis simplement, lorsqu'on baisse de 10 à 15% les tarifs comme l'annonce Marine Le Pen, peut-être que les dividendes seront moins importants qu'ils le sont aujourd'hui. Donc, c'est une question d'équilibre comptable, de logique comptable. Et on peut dire, effectivement, en faisant un cocorico, qu'on a un très très beau réseau autoroutier. On peut critiquer la privatisation, mais les sociétés qui assurent la gestion de ces autoroutes le font particulièrement bien.
Et oui, comme quoi, avec les autoroutes, il n'y a pas d'argent magique non plus.
Et il était bon de le rappeler ce soir sur RTL.
RTL, sous les radars.
Effectivement, dans On défait le monde, tous les soirs, on vous révèle une info qui est passée, mais alors totalement, absolument inaperçue.
Et alors que la vaccination contre le Covid marque le pas, on découvre désormais des lieux de vaccination de plus en plus étonnants, Laurent.
Oui, on peut se faire vacciner dans un supermarché avant d'aller faire ses courses, dans des bus, mais là, encore plus improbable, un bar tabac.
Ah, vous me parlez là, Laurent.
Ça vous parle, Julien. L'établissement Le Diplomate à Lille, dans le quartier de Fives, va se transformer samedi en centre de vaccination. Alors l'idée est venue directement de Fabienne, la gérante du café, en parlant à l'extérieur avec des clients qui ne sont pas vaccinés.
Les gens ne voulaient pas se déplacer en centre-ville. Et comme c'est un quartier populaire et que je suis à l'écoute de tout le monde, je me suis dit pourquoi pas proposer le centre de vaccination dans mon établissement. Et les gens se sentent rassurés parce que je serai là. Parce qu'ils me connaissent depuis longtemps, je fais partie de leur vie et je suis confinante.
Le bar tabac, un lieu où l'on se retrouve dans le quartier, Fabienne lance cette initiative avec la pharmacie qui se trouve à proximité, le centre de santé voisin. Laurence Tisserand est l'une des infirmières et le projet a été validé rapidement.
On en a donc parlé à notre référente à l'agence régionale de santé. Ça s'est fait aussi simplement. Même s'ils ne viennent pas acheter, d'ailleurs, ils peuvent simplement venir comme ils se rendraient dans une mairie de quartier qui a été transformée en éphémère. Il y aura un médecin, deux infirmières qui seront présents sur le site.
Première, deuxième ou troisième dose pour une vaccination au Pfizer. Les premiers volontaires sont donc attendus samedi matin au diplomate dans le quartier de Fives à Lille à partir de 9h et jusqu'à 13h. Tout ça sans rendez-vous.
Café, croissant, vaccin. Le trio gagnant.
Oui, c'est très bien. Sinon. Effectivement, tous aux diplomates. C'est donc samedi à Lille, quartier de Fives. Merci Laurent pour l'adresse. Une petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. Il sera question d'uniforme et de gyrophare. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48, vous écoutez RTL, on continue de défaire le monde jusqu'à 19h dans RTL Soir. Vous allez pouvoir faire les malins dans quelques minutes au repas. Voici la première info pour briller au dîner.
On rappelle qu'il y en aura deux et qu'il faudra choisir la meilleure. Hein. Alors on vous en parle depuis ce matin. Dans quelques mois, les policiers auront une nouvelle tenue qui sera, sans surprise, de couleur bleue, Arthur.
Ouais, mais pourquoi les policiers ils sont habillés en bleu marine, à votre avis? Eh bien, parce que...
Pourquoi? Dites-le-nous.
Bah, je vais vous le dire. Comme ça le football ou le rugby, ça vient d'Angleterre. En fait, en 1829, le Metropolitan Police Act crée la première police moderne, organisée, formée et payée. Les fameux bobbies, qui sont toujours là aujourd'hui. Leur uniforme est bleu foncé, parce qu'à l'époque, c'était pour les différencier des militaires, habillés, eux, en rouge et blanc. Mais c'est pas la seule raison. Le bleu permet à la fois de se fondre dans la masse et d'être facilement identifiable par la population. C'est une couleur qui inspire tout autant la confiance que l'autorité. Et depuis, la plupart des pays du monde, comme la France, le Japon, les États-Unis ou le Brésil, ont opté pour le bleu foncé ou le bleu marine.
C'est pas très original.
Non, au Canada, il y a la police montée. Ah. Ils sont en rouge.
C'est vrai.
Ah, c'est plus c'est compliqué vrai. Pour se fondre dans la population. En même temps, en se baladant
à cheval.
Et en Allemagne, pendant longtemps, ils étaient veste vert kaki et pantalon beige.
Comme dans Derrick.
Je vois que certains connaissent bien leur classique. Merci beaucoup, Arthur.
Je vous en prie.
Julien Cellier et Cyprien Signy ont défait le monde.
Et ça y est, elle a tranché, vous le savez, chaque soir, Céline Landreau désigne soit le winner, le gagnant, soit le loser, le perdant du soir.
Moment très attendu de l'émission, avec ce soir...
Attendu par qui?
Tout le monde. Ah. La dure réalité
nous,
de la vie. Nous, oui, nos auditeurs, etc. Bon bref. Donc aujourd'hui, avec ce soir, la dure réalité de la vie, ils sont arrivés en grand winner à l'Elysée, les médaillés de Tokyo. Mais ça s'est pas passé comme prévu, Céline.
Oui, tout avait pourtant à bien commencé. Hein. Auréolés de leur succès, les médaillés de Tokyo étaient attendus à l'Elysée. Ils étaient... émus, heureux en arrivant comme Fanny Horta, vice-championne olympique de rugby à 7 ou encore l'épéiste champion olympique Romain Cannon.
C'est juste extraordinaire.
Déjà, j'essaie de comprendre que je suis à l'Elysée et de réaliser que je vais sûrement rencontrer Macron dans quelques minutes.
Les ors de la République pour des sportifs, tout émus de rencontrer le président, mais qui ne s'attendait peut-être pas à passer en conseil de classe.
Les résultats sont là. Mais des progrès restent possibles.
Et bim, sur les doigts, les médaillés recadrés par le chef de l'État, appréciation générale, peut mieux faire.
Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité.
Drôle de manière de féliciter ceux qui sont quand même revenus avec une médaille, eux. Et c'est pas fini.
Oh là là.
Je ne suis pas de ceux qui se fixent pour ambition de faire au moins aussi bien. Je vous le dis très clairement, on doit faire beaucoup plus. Beaucoup plus.
Plus que 33 médailles pour les Jeux Olympiques et 54 aux Paralympiques. Le président veut que la France intègre le top 5 olympique. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et des Sports, avait déjà fixé cet été un objectif. 80 médailles aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
Alors c'était Laura Flessel qui, lorsqu'elle était en charge des sports, avait dit ce chiffre de 80. Je trouve que c'est un chiffre ambitieux et qu'on doit continuer à se fixer. Il n'est pas évident, puisque ça suppose de faire plus que doubler nos médailles.
Ah bah oui, c'est pas évident. Ah ouais. Ça fait quand même 47 médailles de plus à glaner dans 3 ans. Et tout ça en sachant que le record historique des Bleus date de 2008 à Pékin avec 43 podiums. Alors, avant même le discours du président, quand notre journaliste du service des sports de RTL, Jean-Michel Rascol, a demandé à Teddy Riner ce qu'il pensait de ses objectifs.
Tu veux que je te dise la vérité ? La France est une grande nation du sport. Maintenant, se dire qu'on va faire 90 médailles à Paris 2024, non. J'aimerais qu'on me fasse mentir, hein. Mais il faut faire beaucoup plus de choses pour pouvoir prétendre à 90 médailles en 3 ans. Il fallait investir déjà 7 ans en arrière dans le sport, massivement. On pourra toujours se cacher derrière le Covid.
Recadrage de Teddy Riner, mais ouais. Recadrage sympa, hein, parce que vous l'avez entendu, le judoka quand même propose une excuse pour expliquer dans 3 ans que les objectifs n'ont pas été atteints. Le Covid. Ceci dit, le gouvernement avait déjà trouvé la parade. Roxana Maracineanu, la secrétaire d'État au sport, expliquant qu'en fait, maintenant, on comptait tout ensemble, hein, les médailles des Jeux Olympiques et des Paralympiques.
Pas pratique.
Du coup, les tricolores sont rentrés de Tokyo avec 87 médailles. Finalement, vu comme ça, ça paraît jouable pour Paris 2024.
En tout cas, on en parlera de ces petites tensions, hein, on peut le dire, entre Emmanuel Macron et les sportifs, les objectifs 2024 de l'Elysée. On en débattra dans On refait le monde avec Éric Brunet. Ce sera tout à l'heure à 19h15. Petite pause et dans un instant une nouvelle info pour briller au dîner. On va remonter le temps les amis. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, pendant encore 5 minutes, on continue de défaire le monde dans RTL Soir et on vous offre ces cadeaux, la seconde info pour briller tout à l'heure au dîner.
Alors vous savez, Robert Badinter était de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour commémorer les 40 ans de la loi abolissant la peine de mort. La France y a définitivement renoncé en 1981, très longtemps après les précurseurs, Céline.
Oui, qui ne sont d'ailleurs pas ceux qu'on pourrait imaginer, car le premier pays encore existant à avoir aboli la peine de mort, c'est le Venezuela.
Ah bon ?
C'était en 1863. Ah bon, oui, un pionnier.
Incroyable.
Qui pourtant n'est pas aujourd'hui le premier en termes de respect des droits humains. Si les exécutions capitales ne sont plus légales, les exécutions extrajudiciaires restent très fréquentes. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 2000 personnes auraient été tuées au Venezuela dans le cadre d'opérations de sécurité entre le 1er janvier et le mois de septembre. Premier
info,
à l'époque, aujourd'hui.
Pas dernier, mais pas loin. Hein, en tout cas, info pour briller. En tout cas, contre-intuitive, c'est le bon terme, Céline. D'ailleurs, je l'ai choisi ce soir parce que voilà, elle me surprend cette info. Ouais. Bravo, Céline, pour votre travail absolument extraordinaire comme chaque soir. Allez, marche ou rêve, chaque soir, c'est l'occasion de vous passer à vous les auditeurs un coup de fil, de saluer vos idées. Ce soir, une initiative qui est nécessaire.
Ou comment sauver des vies grâce aux réseaux sociaux, Laurent.
Seul un Français sur 5 est formé aux gestes de premier secours. Et pourtant, si nous l'étions tous, la Croix-Rouge estime que 20 000 décès pourraient être évités chaque année. Alors Thibaut, 20 ans, étudiant en 3e année de fac de sport à Brest, a pris les devants. Et il vous sensibilise à ses gestes sur son compte Instagram, Sauveur de Vie. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir tout le monde.
Vous avez plus de 100 000 abonnés. À quel moment vous êtes dit, là, il est temps d'agir ?
Alors, ça a été juste durant le premier confinement, en fait. J'ai appris personnellement à prendre les gestes qui sauvent. Un repas avec ma famille, par exemple, je me suis demandé s'ils savaient réagir, si je m'étouffais. Et à partir de là, la réponse a été plutôt non. Et j'ai pris conscience de l'importance du secourisme. Ça m'a fait honnêtement un petit peu peur. Puis j'ai commencé à apprendre tout seul et j'ai diffusé les connaissances que j'apprenais.
Et alors Thibaut, quel type de contenu peut-on retrouver sur votre page ?
Alors moi, je précise, donc je suis sur Instagram. On peut voir des infographies où je présente notamment comment réagir face à une hémorragie, comment réagir face à un étouffement. Je montre aussi des petites vidéos assez ludiques comme comment réagir toujours face à une hémorragie, faire une PLS, des dégagements d'urgence. Des infographies très simples pour que ça soit facile à comprendre pour le grand public.
C'est très concret parfois. Pourquoi ne pas retirer un couteau, un tournevis d'une victime ? On va jusque-là, c'est très précis. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, bah, j'essaye d'être au maximum précis parce que le secourisme, c'est quand même domaine assez pointilleux avec de nombreux détails, donc il faut être précis.
Et dites-nous, Thibaut, à quoi vous fait penser cette musique ? Vous l'utilisez
dans le rapport personnellement.
Oui, tout à fait. Bah, c'est la musique Stayin' Alive qui est assez connue. Et en fait, ça représente au moment où il y a les A, il faut faire une compression thoracique, c'est-à-dire lors du massage cardiaque. Et c'est parfaitement le rythme qu'il faut adopter pour un arrêt cardiaque d'un adulte.
En fait, on appuie sur chaque A, sur le torse de la personne qu'on est en train de masser, c'est ça ? Pour être très concret.
Exactement, et ça donne le rythme.
D'accord.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement le rythme pour le massage cardiaque ?
Alors pour un adulte, c'est 30 compressions thoraciques et 2 insufflations. Et sinon, pour le rythme, c'est 200 à 120 compressions par minute.
Et quel retour, Thibaut, vous avez de vos publications? Est-ce que des secouristes, des sapeurs-pompiers vous envoient des messages?
Oui, tout à fait. Alors j'ai de nombreux messages de pompiers, de personnes en association ou des professionnels justement dans le milieu du secourisme qui me remercient déjà d'avoir créé ce compte, de diffuser les gestes qui sauvent sur les réseaux sociaux parce que j'étais le premier à le faire sur les réseaux sociaux. J'y reçois aussi des témoignages de pompiers et que je repartage de façon anonyme pour montrer aussi la réalité du terrain.
Eh bien, merci Thibault. Et pour celles et ceux qui souhaitent se sensibiliser aux gestes qui sauvent, rendez-vous sur votre compte Instagram Sauveur de vie 2, écrit en chiffres.
Stay Alive pour sauver des vies, ça c'est une super idée. On va se quitter en musique, c'est très sympa. Les amis,
les Bee Gees.
Dans Défait le Monde, les Bee Gees. On se retrouve demain avec les Bee Gees, avec Cyprien, Laurent, Céline, Arthur à 18h40. À demain, les
amis. À demain, avec plaisir.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.